Bonsoir.
Et ce soir, le journal est présenté par Annabelle Grelier.
Israël et les Émirats arabes unis font la paix. L'accord négocié sous l'égide des États-Unis vient d'être conclu par téléphone. Considéré comme historique, l'accord prévoit qu'Israël renonce à l'annexion de plusieurs zones de Cisjordanie. La ministre française des Armées, Laurence Parly, en visite à Beyrouth pour 2 jours, une visite de soutien à la ville meurtrie. Y aurait-il plus de risques d'attraper la Covid au travail que sur la terrasse d'un café? Les entreprises sont considérées en France comme des foyers de contamination à la Covid-19. Elles représenteraient 20% des clusters identifiés. En Espagne, ce sont les terrasses qui sont visées et plus particulièrement les fumeurs. La fumée de cigarette véhiculerait-elle le virus? Cela relance la question de la transmission du virus par l'aérosol. On en reparle dans ce journal. Israël et les Émirats arabes unis ont signé sous l'égide des États-Unis un accord de paix historique, a tweeté aujourd'hui Donald Trump, permettant donc à ces deux pays de normaliser leurs relations. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a également évoqué un jour historique et un pas décisif vers la paix au Moyen-Orient. La correspondance à Jérusalem d'Alice Froussard.
Selon les autorités israéliennes, des ambassades seront bientôt ouvertes et des délégations des deux pays doivent se rencontrer, signer des accords bilatéraux concernant le tourisme, la sécurité, les vols directs, la technologie, la culture, la santé, l'environnement, l'énergie et ce dans les prochaines semaines. Autre point, les Émirats parlent de stopper l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. La Maison-Blanche dit seulement la suspendre. Il est donc encore compliqué de savoir ce qu'il va advenir, mais c'était l'une des promesses de campagne du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et c'était prévu dans le projet de paix au Moyen-Orient de Donald Trump révélé en janvier. Les colons israéliens risquent d'être très déçus. Effectivement, d'une certaine manière, on peut parler d'un deal historique, mais dans les faits, les relations entre Israël et les Émirats arabes unis sont déjà normalisées. Les Palestiniens ont réagi de leur côté, notamment Hanan Ashraoui du comité central de l'Organisation de libération de la Palestine, précisant, je cite, que les deux pays ne font que révéler au grand jour leurs relations secrètes. En tout cas, il faudra savoir comment cela se concrétise, car normaliser, ce n'est pas directement établir des relations diplomatiques.
La ministre française des Armées, Florence Parly, est à Beyrouth pour une visite de soutien au Liban après l'explosion qui a ravagé la capitale. Une visite donc au cours de laquelle elle doit accueillir le porte-hélicoptère, le Tonnerre, chargé d'aide. Reportage sur place d'Aurélien Colli.
Il y a les images qu'on voit à la télé et il y a la réalité à laquelle on est confronté, même quand on est ministre des Armées.
Il est très difficile de trouver les mots. C'est une scène que je n'avais pour ma part jamais vue auparavant. C'est un véritable désastre, c'est une tragédie.
Tragédie économique avec le port de Beyrouth, le poumon du pays dévasté. Tragédie humaine dans les quartiers avoisinants, eux aussi ravagés. À Gémaïzé, Florence Parly passe sous les immeubles éventrés, entre les carcasses de voitures écrasées et des habitants qui ont tout perdu. On n'a plus de maison, ne donnez pas d'argent à l'État, ils le volent, c'est à nous qu'il faut le donner, interpelle une mère de famille. Réponse quelques minutes plus tard de la ministre des Armées.
Cette aide doit pouvoir bénéficier à la population libanaise. C'est notre seul objectif et c'est un objectif qui est tout à fait partagé. S'assurer que cette aide parvienne bien à ceux auxquels elle est destinée.
Un message déjà martelé par Emmanuel Macron la semaine dernière et que Florence Parly répétera encore demain au président libanais qu'elle doit rencontrer avant de se rendre sur le porte-hélicoptère Tonnerre attendu cette nuit à Beyrouth avec 750 militaires français et des centaines de tonnes d'aide médicale et alimentaire à son bord.
La guerre économique, elle continue. Les États-Unis maintiennent leur taxe punitive contre des produits européens et ce, en dépit d'un geste d'Airbus qui dit s'être mis désormais en conformité avec les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La dispute entre les États-Unis et l'Union européenne sur ce dossier date d'octobre 2004 à propos des aides publiques versées à l'avionneur européen Airbus. Les Européens accusent des mêmes faits l'avionneur américain Boeing. En attendant, Washington modifie la liste de produits européen frappé de droits de douane. La Commission européenne, de son côté, demande une solution négociée. Un nouveau processus de négociation pourrait être engagé. Mais quand ? Tout semble reporté à l'automne, voire l'année prochaine, Pierre-Yves Dugas.
En retirant certains produits grecs et britanniques de la liste de biens sanctionnés et en ajoutant un montant équivalent de sanctions sur des biens français comme les confitures, mais aussi allemands, Washington montre son intention d'engager une future négociation avec Bruxelles dans une position de force. Airbus affirme s'être mis en conformité avec la décision de l'OMC de ne plus recevoir d'aide à des taux inférieurs au marché mais Washington considère que le préjudice subi par Boeing depuis 16 ans n'est pas pour autant effacé. Bruxelles ne peut pas réagir aujourd'hui et sanctionner à son tour des produits américains parce que le montant global des sanctions américaines, soit 7,5 milliards de dollars, reste le même. Et ces sanctions américaines sont bel et bien autorisées par l'OMC. L'Union européenne se retrouve contrainte d'attendre la décision de l'OMC relative cette fois-ci aux aides américaines à Boeing. Attendue initialement pour le mois de mai, elle a été reportée à juin, puis septembre et maintenant octobre, en raison de la pandémie. Il est même possible que le jugement ne tombe pas avant les élections présidentielles américaines de début novembre. Voilà qui compliquerait la riposte éventuelle des Européens.
Pierre-Yves Dugas à Washington. Beaucoup de Français sont en vacances en cette veille de week-end du 15 août et ils ne seront pas tristes d'apprendre que c'est finalement au travail que les risques de contamination à la Covid-19 seraient les plus élevés. Selon le professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, les entreprises représentent plus de 20% des clusters identifiés. La question se pose donc de savoir s'il faut généraliser le port du masque au sein des entreprises. Aujourd'hui, il est obligatoire seulement quand la distanciation physique d'un mètre n'est pas possible. Une réunion doit se tenir au ministère du Travail la semaine prochaine pour en discuter. Un débat qui n'est pas sans poser des problèmes en termes d'approvisionnement des masques, mais aussi en termes de coûts, estime la vice-présidente déléguée de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, Stéphanie Poza.
Actuellement, on n'a pas de difficulté pour en avoir. Moi, j'en ai commandé en début de semaine. Je vais être livrée fin de semaine ou début de semaine prochaine. Par contre, on a des ruptures sur d'autres produits comme les gants à usage unique, comme les combinaisons jetables. Ça, c'est certain. Après, au niveau des stocks, 2 mois et demi, est-ce suffisant ? L'avenir, entre guillemets, nous le dira. Ce qu'il faut, c'est effectivement, quand on voit que son stock diminue, il faut renouveler régulièrement. Après, en termes de coûts, là, oui, c'est un sujet. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains secteurs d'activité ou certaines professions qui arrivent à répercuter le coût sur le client. D'autres n'y arrivent pas. Là encore, je vais prendre l'exemple de mon entreprise parce que c'est quelque chose de concret. J'ai 250 équivalents temps plein. C'est un budget d'à peu près 5 000 euros par mois, donc 60 000 euros à l'année. Et je n'arrive pas à répercuter rien que le coût des masques. Hein. Je ne vous parle pas du gel, des gants, etc. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas répercuter sur mes clients. Donc, c'est un vrai sujet, une vraie problématique pour les entreprises qui ont déjà des difficultés de trésorerie et des difficultés de rentabilité cette année. Il y a des aides déjà prévues pour les entreprises de moins de 50 salariés. Qu'il faut aller plus loin sur les entreprises de 50 à 500, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le coût est quand même assez conséquent pour les employeurs.
Stéphanie Poza répondait à Maxime Fayol. Les lieux clos donc posent problème, on vient de l'entendre, mais en plein air se posent d'autres questions, comme celle de la transmission du virus par aérosol. Ça se passe dans le nord de l'Espagne, en Galice. Il est désormais interdit de fumer dans les rues et sur les terrasses, sans une distance minimale de sécurité. En Espagne, rappelons, le masque est obligatoire sur tout l'espace public, intérieur ou extérieur, hors rares exceptions donc. Et il y en a désormais une, c'est en Galice, Mathieu de Taillac.
Fini l'image du passant qui marche le visage découvert parce qu'il est en train de fumer une cigarette. Terminé les convives qui s'engrillent en terrasse avec un café ou un verre. La Galice interdit de fumer sur tout l'espace public si une distance sociale de 2 mètres ne peut être garantie. Première explication à cette interdiction. Pour fumer, bien sûr, il faut enlever son masque. Un facteur de risque jugé inutile par le gouvernement régional. Il faut dire qu'en Espagne, le masque est déjà obligatoire partout à l'extérieur, même lorsque la distance sociale peut être respectée. Mais au-delà, fumer, c'est porter de nombreuses fois la main sur son visage, autrement dit, risquer de se contaminer ou de contaminer les autres. Et quand on fume ou que l'on vapote, ce qui est également interdit sur la voie publique en Galice, on expulse davantage d'air et potentiellement davantage de gouttelettes. Sans parler du tabagisme qui, en tant que tel, est un facteur aggravant de toute maladie respiratoire telle que le Covid. Bref, si certains fumeurs rouspètent, les non-fumeurs, eux, sont emballés par la mesure, avec ou sans pandémie. Mais surtout, les médecins applaudissent et demandent au reste de l'Espagne d'adopter cette interdiction. C'est chose faite aux Canaries. La même mesure sera en vigueur dès demain. Et 8 autres régions se penchent sur la question, dont celle de Madrid.
Voilà qui pose en tout cas la question de la transmission du coronavirus par gouttelettes uniquement ou également par aérosol. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
Alors, spécialiste santé de la rédaction de France Culture, vous allez nous expliquer, parce que hier, le ministre français de la Santé avait ces mots, le risque suspecté de transmission aérosol justifie de prendre tous les moyens possibles de lutte contre le virus. Quel est l'état de la recherche sur la question ?
Bien, l'interrogation existe depuis des mois. Pour l'instant, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas vraiment tranché, mais elle a beaucoup infléchi son discours. Jusqu'au 9 juillet dernier, ces experts insistaient sur la transmission du virus par gouttelettes projetées qui retombaient ensuite au sol à une distance environ 1 mètre. D'où l'idée qu'on était protégé par la distanciation sociale. Mais le 9 juillet dernier, l'OMS a modifié ses recommandations après la publication d'une lettre de 239 scientifiques venus de 32 pays. Ils interpellaient l'OMS, expliquant en substance que même si la transmission par l'air du virus SARS-CoV-2 n'est pas, je cite, universellement accepté, notre opinion collective est qu'il existe bien assez d'éléments probants pour appliquer le principe de précaution. Autrement dit, portons tous des masques. Alors de quoi s'agit-il ? La question est de savoir si le virus est contenu dans les micro-gouttelettes de moins de 5 microns de diamètre que l'on propage dans l'air quand on tousse, éternue ou tout simplement quand on parle. Eh bien la preuve scientifique n'a pas encore l'air d'être établie, même s'il existe des indices. Le 10 avril dernier en Chine, on a découvert dans un hôpital de campagne des fragments de virus dans les chambres de réanimation, sur les fenêtres, les ordinateurs, les sols et donc loin des malades alités. Ces fragments ont été transportés au-delà de 1 mètre par l'air, ont conclu des scientifiques. Une autre étude publiée le 16 avril a montré que le virus survit pendant 3 heures quand on le propage par aérosol. Mais l'expérience a été faite en laboratoire, pas dans des conditions normales quand on se parle entre êtres humains. Dans ces expériences, on ne sait pas non plus si les particules de virus retrouvées peuvent contaminer des personnes saines. En tout cas, le doute existe et les autorités mondiales prônent maintenant le port du masque généralisé.
Merci Tara. En Italie, ces députés de la Ligue, le parti d'extrême droite de l'ancien ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui avait été épinglé pour avoir demandé et touché le bonus Covid, cette aide d'urgence de 600 euros mensuels destinée aux personnes en grande difficulté financière, eh bien ils ont présenté aujourd'hui leurs excuses, du moins deux d'entre eux. Ils ont été suspendus de leur parti, mais ils restent tout de même députés. Et puis ça se dégonfle. Finalement, le président philippin Rodrigo Duterte, qui avait proposé de servir de cobaye pour le vaccin russe, eh bien, il s'est ravisé. Les Philippines vont commencer en octobre à tester donc ce vaccin à grande échelle, mais il ne lui sera pas inoculé donc au président avant le mois de mai. Et puis on finit avec cette information économique. En France, on le sait, il est devenu un symbole de précarisation. Uber, le géant américain du VTC, n'est pas exempt de critiques, même chez lui en Californie, là où se trouve son siège social. Les groupes Uber et Lyft, les deux leaders du VTC aux États-Unis, sont sous la menace d'une loi locale qui les oblige à classer leurs chauffeurs comme des employés et non des travailleurs indépendants. Une mesure qui remet radicalement en cause leur business model, leur modèle d'affaires en bon français, puisqu'elle les obligerait à leur payer des congés maladie par exemple. Uber et Lyft refusent de s'y soumettre, mais cette semaine, un juge a donné raison à l'État de Californie, Loïc Piala.
Au cœur de cette affaire, il y a la loi AB5, un texte voté l'an dernier pour encadrer le recours aux travailleurs indépendants et limiter les dérives de la gig économie incarnée par Uber ou Lyft. En substance, leurs chauffeurs devraient être traités comme des employés et recevoir des avantages sociaux. Les deux géants du VTC et d'autres entreprises de la tech ont déjà dépensé 110 millions de dollars en lobbying pour entraver le vote puis l'application de cette législation. Ils avancent deux arguments. D'abord, 70% de leurs chauffeurs préféreraient leur statut d'indépendant. Ensuite, ils ne sont de toute façon pas au centre de leur activité puisque Uber et Lyft se définissent d'abord comme des entreprises technologiques. Ce dernier point a été fermement rejeté par un juge californien lundi. Il a donné aux deux groupes 10 jours pour appliquer la loi, mais impossible de transformer leurs chauffeurs en employés en si peu de temps, préviennent Uber et Lyft. Si un délai ne leur est pas accordé, ils devront cesser leurs opérations en Californie, disent-ils. Les électeurs californiens pourront se prononcer sur la loi en novembre prochain via un référendum appelé Proposition 22.
Du côté de la météo, vendredi, demain donc, le temps sera instable au nord, plus sec au sud, selon les prévisions de Météo France. La perturbation pluvio-orageuse de la veille donc continuera de remonter durant la nuit, occasionnant des averses et quelques coups de tonnerre sur la moitié nord. Du côté des températures, de 30 degrés à Lille, 24 à Paris et 30 à Strasbourg.